Le tir est levé!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Sur réception. Ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas fait d'épisode depuis le dernier qui date de plusieurs mois déjà.
Novembre.
Mais novembre, ok, ça fait pas. Je pensais que c'était octobre, presque septembre. Je pensais
que c'était au mois de novembre.
Mais bref, très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est moi, Douali Ibrahim, qui va être à l'animation de cet épisode. Et pour l'occasion, on est juste deux, malheureusement. Les autres ne pouvaient pas, mais je t'accompagne mon bon ami Olivier Presse-Grelot. Olivier, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, Douali. La fin de semaine qui démarre et la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc oui, je vais très bien.
Ben écoute, merci. Moi aussi...
Et moi toi, aussi, toi ça va bien aussi?
Ouais, ben ça, je vais en dire. Écoute, je suis en forme, je suis en pleine forme. Écoute, je suis toujours en forme pour parler de hockey, là. Donc, ça te fait bien qu'on puisse faire ça aujourd'hui, là. Donc, bon, comme tu l'as mentionné, on est déjà rendu à la moitié de la saison, même qu'on a joué, mais même que l'incident d'hockey, la majorité des équipes, dont le Canadien de Montréal, a déjà joué plus que la moitié de la saison. Là. Le Canadien de Montréal est rendu déjà à 45 matchs de jouer pour la saison 2023-2024. Et il s'est passé beaucoup de choses, mais d'abord, on va rester ici à Montréal pour parler du Canadien de Montréal. Bon, en ce moment, juste rapidement, je vais dire l'affiche Canadien de Montréal. Cette saison, en 45 matchs, Canadien de Montréal, c'est 19 victoires, 19 défaites et 7 défaites en temps supplémentaire, donc en prolongation ou en tir de barrage. Donc, le Canadien de Montréal se retrouve exactement avec une fiche de 500. Donc, Oli, pour toi, là, cette saison, là, est-ce que le Canadien joue au-dessus de tes attentes ou en dessous de tes attentes? Comment tu vois cette première moitié de la saison de Serge?
Ben, honnêtement, au-dessus de mes attentes, je ne pensais pas qu'on allait compétitionner pour les séries pendant quand même un bout. Là, je pense que c'est de plus en plus clair qu'on ne vise pas les séries et c'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas rendu là en tant que club dans la reconstruction côté de Montréal. Mais ouais, clairement, au-dessus de mes attentes, il y aura Slavkovski, entre autres, qui est là, le point le plus positif probablement de cette saison-ci, qui gagne des batailles dans les coins, qui ressort souvent avec la rondelle, qui est très efficace pour ses compagnons de trio, Cole et Nick Suzuki. Donc, Slavkovski, très bon point positif, comme je l'ai dit. La rotation dans les trois gardiens, le Montembeau qui est excellent. Bon, Primo, match très difficile hier, mais a quand même fait du bon travail jusqu'à maintenant durant le début de la saison. Allen va quand même bien aussi, des matchs plus difficiles, mais va quand même bien également. Donc, c'est pas l'idéal, la rotation entre gardiens, mais c'est un système qui fonctionne quand même bien jusqu'à maintenant cette saison. Là, on attend toujours que probablement Allen parte. Je pense que c'est ça le plan. Mm-hmm. Et sinon, ben, il y a d'autres jeunes qui ont progressé. On a vu Joshua Roy. On voit, bon, Newell qui a eu quelques petits flashs, là, malheureusement, est blessé. Les blessés, d'ailleurs, sont moins nombreux que l'an dernier, ce qui fait plaisir. Mais il y en a quand même plusieurs. Là, on aurait aimé ça en avoir encore moins. Ben, Kirby Dack, c'est la plus grosse déception qui a pu jouer seulement deux matchs. Je pense à Newhook, Dvorak, Savard qui a été blessé également. Bref, on aimerait ça en avoir encore moins que ça, mais c'est quand même positif par rapport aux dernières saisons. Donc, pour ce qui est des résultats, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que le Canadien compétitionne aussi proche des séries. Aussi loin dans l'année. Donc, clairement, au-dessus des attentes, même s'il y a des choses à travailler, là, notamment ne pas perdre contre des petits clubs, là, contre les Sénateurs, par exemple, avec une performance difficile hier, ou les Sharks. Bref, mais dans l'ensemble, au-dessus de mes attentes.
Ouais, mais écoute, pour le Canadien Montréal, bon, si on parle du match d'hier contre les Sénateurs d'Ottawa, c'est sûr que le Canadien Montréal a beaucoup de difficultés quand il joue. Deux matchs en deux soirs. La fiche Canadien-Montréal, c'est pas compliqué. Là. Quand le CH joue deux matchs consécutifs, c'est une victoire, 8 défaites. Donc, c'est c'est pas tant surprenant quand tu vois les statistiques de voir une désillusion de la part du Canadien-Montréal comme ça a été le cas contre les Sénateurs d'Ottawa. Surtout après une belle performance, c'est la veille qu'on est de Boston, New Jersey. Puis, la belle victoire également contre l'Avalanche Colorado. J'étais sur place et c'est probablement un des meilleurs matchs que les Canadiens ont joué depuis le début de la saison. Donc, c'est assez fou.
Quelle chance tu as eu justement de voir l'Avalanche Colorado. Là.
Mm-hmm. Ouais, non, c'était une chance. C'est un bon match quand même. Là.
Ouais, donc, un très bon match.
C'est fou. C'est un énorme. Mais bref, je voulais te parler d'un joueur qui a eu une saison assez particulière pour le. Ben, une première moitié de saison assez particulière. C'est Cole Caulfield. Pendant longtemps, Cole Caulfield a eu des moments plus difficiles là, où il y avait de la difficulté à trouver le fond du filet. Mais là, depuis quelques temps, il s'est réveillé. Il est quand même rendu à 34 points. Là. C'est le deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Il est rendu même meilleur buteur du Canadien de Montréal en ce moment avec 15 buts en 45 matchs. Mais à part de ça, quand même, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette première moitié de début de saison qu'on a fait? Il y a plusieurs personnes qui pensaient que Caulfield pouvait atteindre le plateau des 40 buts cette saison, voire peut-être plus.
Certainement que ça a élargi en début de saison, puis jusqu'à assez avancé. Là, il y a eu certains bouts que ça allait moins bien, notamment au début de saison, ça partit vraiment faible. C'était pas plaisant niveau pour les partisans du Canadien de voir ça, hein, qu'on s'attendait, comme tu le disais, à une production dès le début de la saison, puis peut-être pouvoir atteindre les 40 buts. Donc, certain que ça, c'était pas plaisant pour les partisans du Canadien, comme je l'ai dit, mais... Là, on le voit se reprendre en main. On voit qu'il n'a pas perdu là, cet instinct du marqueur-là. 4 buts lors des 4 derniers matchs. Puis, je pense, dans la dernière séquence là, de match, ça va beaucoup mieux là, depuis le temps des fêtes, peut-être. Là. Donc, il se replace. Puis, tu m'avais posé la question là, lors du dernier podcast sur réception en novembre, là, si j'étais inquiet par rapport à la production de Caulfield. J'avais dit non. Puis, ça prouve mon point que, en fait, c'était une séquence qui allait mal. C'était une léthargie comme ça arrive chez presque tous les buteurs à la Ligue nationale. Il se replace. Il n'atteindra pas 40 buts cette saison, mais il est presque en chemin pour en atteindre 30, peut-être plus que 30 s'il continue sur la cadence qu'il a en ce moment, où il va très bien, s'il n'y a pas de blessure également. Mais je pense que 30, ce serait l'objectif pour Cole Caulfield. Ce serait très bien, considérant que ça a mal commencé. Donc, Cole Caulfield, oui, des saisons peut-être un peu décevantes pour commencer, mais il faut passer par là dans une carrière de joueur de hockey. Il faut passer par des moments plus difficiles pour savoir mieux les gérer par la suite. Donc, je pense qu'au final, c'est du positif, surtout avec la nouvelle passe, là, cette nouvelle séquence où il va bien.
Puis, écoute, là, évidemment, bon, on arrive à la deuxième moitié de la saison du côté de non seulement du Canadien Montréal, mais d'Alexandre Hockey. Canadien Montréal, pendant longtemps, s'était battu pour une place en séries éliminatoires, ou en tout cas, a essayé de se battre pour une place en séries éliminatoires à la surprise générale. Puis là, depuis quelques temps, s'éloigne en raison de contre-performance. Mais avec la date limite des transactions, est-ce que tu penses que Canadien Montréal devrait tenter de bouger certains joueurs? Surtout que là, depuis quelques semaines aussi, surtout depuis les derniers jours, il y a des rumeurs qui disent que, ben, d'une part, tu as Sean Monahan qui risque de partir d'ici la date limite des transactions, et également aussi, ben, il y a les rumeurs de Trevor Zegras à Montréal, qu'est-ce qui pour moi est un peu fou là, pour l'instant. Là. Donc, pour toi, là, t'envisages comment là, les prochaines décisions de Kent Hughes d'ici la date limite des transactions là?
Ben, pour ce qui est de Trevor Zegras, on s'en était parlé un peu, mais je sais les rumeurs, je ne m'embarque pas tout de suite là-dedans pour l'instant. Il y a un contrat pont, on commence à parler, donc est-ce que c'est pas mieux d'attendre, de voir s'il y a vraiment un intérêt de Zegras pour Montréal, ce qui je suis vraiment pas sûr de ça. Là. Est-ce que ça vaut mieux que de dépenser tout de suite? Parce qu'on se rappelle que selon moi, du moins, le minding, la mentalité des Canadiens présentement, c'est de reconstruire, ce n'est pas de dépenser tout de suite pour aller chercher des gros joueurs. On n'est pas encore rendu là dans la reconstruction tant qu'à moi. Donc, Zegras, on laisse les rumeurs se promener et se balader là, comme on fait toujours à Montréal, mais tant que ce n'est pas du concret, on laisse ça aux rumeurs. Puis pour ce qui est du plan de Kent Hughes, ben, pour moi, écoute, il y a clairement un des gardiens qui doit bouger. Je priorise de grandement Allen. Je pense que Montembeau doit rester. C'est probablement lui qui... En fait, c'est lui qui a la plus grosse valeur. Mais je pense vraiment que c'est un bon gardien de transition. Là. C'est pas avec lui qu'on va gagner la Coupe Stanley, je pense, là, qu'on projette de gagner une Coupe. Mais c'est vraiment un gardien qui est capable d'être numéro un pour les années de transition qu'on voit. Il joue du très bon hockey cette année. Je pense qu'il peut maintenir ça pour les prochaines années jusqu'à ce qu'il soit plus vieux et qu'on trouve autre chose qui va nous amener là, à la terre promise de peut-être cette Coupe Stanley. Mais Montembeau, excellent gardien de transition numéro un, je pense, donc je le garderai. Puis Jake Allen serait celui qui, doit quand même rapporter quelque chose, surtout à la date limite des transactions où la valeur de presque tout le monde est, augmente, là, puisque les besoins des autres équipes sont urgents. Donc, voilà, Allen, ce serait celui que je me départirais. Puis, la rotation à trois gardiens, c'est pas une solution à long terme, on le sait de toute façon. Mm-hmm. Sinon, ben, on a certainement, peut-être pas pour la date limite des transactions, mais pour le futur, on a une banque de défenseurs très intéressante, qu'on en a trop. On peut faire jouer seulement six défenseurs. Là, en plus, tu as Trueball qui prouve clairement qu'il est de calibre de Ligue nationale. Jack High qui est encore dans la Ligue américaine. Est-ce que Jack High aurait une valeur? Moi, je pense que oui. Mm-hmm. Écoute, un Justin Barron peut-être qu'on pourrait laisser partir. On a des défenseurs offensifs qui s'en viennent en masse là, du côté du Canadien, Lane Hutson, entre autres. Est-ce qu'on peut laisser partir un Justin Barron? Je pense que oui. Caden Goulet, pour moi, a été un intouchable. Ryan Backer, on va attendre de voir. Je pense que Lane Hutson était un intouchable également. Donc, tous ceux qui seraient derrière des gars comme ça, je pense qu'on pourrait, ce serait une monnaie d'échange intéressante, surtout pour aller se renforcer offensivement, parce que je pense que c'est vraiment défensivement qu'on est seté du côté du Canadien. Il faut améliorer du côté de l'attaque.
Ouais, ben, tu parles d'améliorer à l'attaque, mais d'après toi, qu'est-ce qui manque en ce moment dans le top 6 Canadien de Montréal? Est-ce qu'il manque plusieurs joueurs? Est-ce qu'il manque un joueur ou il manque quoi en fait?
Il manquerait un autre centre de haut calibre. Est-ce qu'il serait devant Suzuki, derrière Suzuki, peu importe, un centre de premier plan dans la Ligue nationale, là, que ce soit premier trio, deuxième trio, peu importe. Écoute, je ne dis pas nécessairement un joueur élite, là, on tique des McKinnon, des McDavid et tout. C'est seulement quelques équipes chanceuses qui ont la chance de les repêcher et tout. Par échange, on ne pourra pas obtenir ça. Mais voilà, que ce soit par repêchage ou par échange, aller chercher un gros centre numéro 2. Est-ce que ça presse dans l'avenir immédiat? Non, parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit, pour moi, on n'est pas rendu là, la construction que ça a amorcé. Si on va chercher notre centre numéro 2 juste dans 2-3 ans, ça me convient aussi. Peut-être qu'il va venir du repêchage, peut-être. Est-ce que c'est Kirby Dach qui va exploser? Je ne sais pas, mais ça va être à voir. Kirby Dach, il faut qu'il commence à passer une saison en santé complètement. Là. Mais certainement, un centre numéro 2, ça va en prendre un, pas nécessairement tout de suite, par contre. Puis sinon, au niveau des alliés aussi, il va falloir avoir des alliés dans le futur qui sont plus de premier plan que ce qu'on a présentement. Monahan aussi va être un gars qui ne restera pas à long terme avec les Canadiens, je pense. Monahan qui est un autre joueur qu'on pourrait échanger à la date limite des transactions. Donc, le top 6 là, qui va être à améliorer pour le futur, pas nécessairement cette année, pas nécessairement à la date limite des transactions, mais éventuellement, autant au niveau des alliés que des centres.
Là, maintenant, Ali, parlons d'un vrai dossier intéressant, celui de Sean Monahan que j'ai mentionné.
Attends, d'où, là, moi, je parle beaucoup depuis le début, mais toi, là, qu'est-ce que t'en dis, là, dans les limites des transactions? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on bouge? Là?
Oh, écoute, bonne question. Là, écoute, on parle de Sean Monahan, là, que je vais parler tout de suite. Moi, je pense que l'idéal, ce serait que le Canadien Montréal transige Sean Monahan dans une autre équipe cette année. Surtout que là, Sean Monahan va avoir 30 ans à la fin de l'année 2024. Et est-ce que tu vas vraiment avoir Sean Monahan à long terme? Oui, je comprends que Sean Monahan, c'est un joueur important. C'est un gars qui aide surtout Nick Suzuki à prendre moins de responsabilités. Mm-hmm. Et surtout qu'en plus avec la blessure de Kirby Dach, j'ai vraiment l'impression que Sean Monahan a une importance encore plus grande à Montréal et aussi au niveau leadership qui est quand même pas à négliger du côté Sean Monahan. Mais pour moi, écoute, avec la valeur qu'il a en ce moment et on voit à quel point le gars est très complet dans son jeu, je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'échanger à une équipe aspirante à la Coupe Stanley et puis peut-être obtenir un choix de première ronde pour Sean Monahan. Et qui sait, peut-être que Sean Monahan va vouloir encore revenir du côté de Montréal pendant l'été. Alors, moi je sais pas ce que ça en passe à Ali, mais pour moi, l'idée, ce serait d'échanger Sean Monahan peut-être pour un choix de première ronde. Peut-être. Parce que je suis pas certain que...
Si on a la possibilité d'avoir un choix de première ronde pour Monahan, oui, je dis oui, tout à fait. Puis je pense que sa valeur, ça risque d'être la plus haute valeur de Sean Monahan depuis qu'il est à Montréal. Là. Ça risque d'être... Mm-hmm. À son maximum cette année, là, parce que l'an passé, il était blessé après 25 matchs. Donc là, s'il y a des bonnes offres là, à la date limite des transactions, je pense qu'il va en avoir. Ben oui, j'ai aucun problème à laisser partir Monahan. Ce n'est pas lui le futur centre numéro 2 de l'organisation, mais il peut certainement aider une autre équipe, comme tu l'as dit. Fait que avant que je te coupe, là, tu t'en allais où? Là? Excuse-moi.
Ben écoute, moi, selon moi, Chamonix, c'est celui qui a la plus grande valeur parmi les joueurs qui ne sont pas intouchables là, du côté du Canadien de Montréal. Ouais. Même parmi les défenseurs, je ne sais pas s'il y a un défenseur parmi tous ceux qui pourraient être disponibles, en fait, qui pourrait valoir un choix de première ronde. Là. Genre, pour moi, en ce moment, il y a juste Chamonix parmi les joueurs qu'on mentionne souvent. Parmi ceux qui pourraient bouger là, d'ici la date limite des transactions, qui pourraient valoir un choix de première ronde. Selon moi, on en a parlé souvent à la rigolade avec notre bon ami Nicolas Charon, que Abad Jaka, je suis désolé, mais on ne peut pas me faire croire qu'Abad Jaka a une grande valeur. Là. Je comprends son utilité, mais c'est impossible de se dire aujourd'hui, avec Abad Jaka qui joue dans les Américains, ouais, ce gars-là vaut un choix de deuxième ronde, voire peut-être un choix de première ronde. Impossible. C'est juste impossible. Donc, pour moi, c'est ça. Je vais finir là-dessus en disant que Sean Monahan est le seul joueur parmi tous ceux que les Canadiens pourraient échanger d'ici à toute émétration qui vaut en ce moment un choix de première ronde. Selon moi, c'est le seul.
Je suis assez d'accord avec ça. Je serais intéressé de voir la valeur d'un Justin Barron qui a une bonne saison cette année. Là. Je pense pas qu'il vaut un choix de première ronde, mais il pourrait voir un 2 ou un de bons espoirs. Là.
Mais moi, Justin Barron, j'aimerais que les Canadiens le gardent. Honnêtement, je trouve que il y a des belles attitudes offensives et également aussi, moi, c'est son coup de patin que j'aime beaucoup. Puis c'est peut-être ça aussi qui vient un peu perturber ma perception de ce joueur-là. Je sais que défensivement, il y a des lacunes, mais quand tu regardes ses aptitudes offensives, son coup de patin, puis surtout le fait que Sidney Crosby a dit que c'était un vol de la part du Canadien de Montréal d'avoir eu Justin Barron dans l'échange d'Arturi Lehkonen. Je sais pas, j'ai de la misère à croire que Justin Barron va partir de Montréal. Moi, je pense qu'il y a une place à Montréal. Mais je te dis pas qu'il va avoir une place à Montréal dans le top 4. Là, c'est pas ça que j'ai dit. Mais écoute,
Peut-être. Mais écoute, des défenseurs à caractère offensif à Montréal.
Il y en a plein.
On en a beaucoup, ben, pas nécessairement maintenant, mais qui s'en viennent aussi, on en a beaucoup. Donc, tu sais, moi, je sacrifie lui devant un Hudson ou un Ryan Backer. Donc,
OK, mais là, je vais te poser la vraie question. OK, là, on va s'amuser. Là. Selon toi, là, okay, là, d'ici 5 ans, là, okay, tu penses que ça va ressembler à quoi le top 6 à la défense du Canadien de Montréal?
OK. D'ici 5 ans, ben, Savard et Matheson ne sont plus là. Donc, on a Caden Goulet qui va être notre défenseur le plus fiable. Surtout défensivement, mais qui va, j'espère, améliorer son côté offensif d'ici là également. Mm-hmm. On va avoir Ryan Backer ou Watson qui va être sur cette première paire-là de ce que j'anticipe. Est-ce qu'ensuite, qui d'autre qu'on aurait? Je pense qu'on va garder Harris. Il y a un de Barry, il y a Strouble qui déjà joue sur une des premières paires, va pouvoir compléter peut-être un top 4. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres joueurs à pêcher, peut-être des transactions, mais si on suit seulement aux joueurs qu'on a présentement, ben, on va garder un des deux entre Barron et Harris. Ensuite, là, Kovacevic qui est dans l'équation également. Mais écoute, le top 6, je sais pas, c'est loin, là, mais top 4, moi, je verrais il y a Logan Mailloux également. Là, Logan Mailloux va faire partie de cette brigade-là, je pense bien. Là. Donc, écoute, moi, je te dirais Goulet et mettons Hudson sur une paire, puis peut-être Ryan Backer, Strouble, quelque chose comme ça, ou Ryan Backer, Goulet, puis Hudson, Strouble, quelque chose comme ça. Et je sais pas si ça marche du côté des droitiers gauchers, mais j'ai des blancs sur qui est droitier.
Je pense que tu peux pas mettre Lane Hudson et Caden Goulet sur une même paire parce que c'est deux gauchers.
Okay. Donc, alors, Ryan Backer, Goulet pourrait fonctionner.
Oui, ça pourrait fonctionner parce que c'est un droitier gaucher. Ouais.
Voilà, quelque chose comme ça. Puis ensuite, peut-être Hudson, Strouble.
Strouble, c'est à gaucher aussi.
Ça marche pas non plus. Bref, écoute, mais je sais pas exactement les paires, là, mais tu comprends où
j'en suis. Je comprends que ça s'en est
pas. Il va avoir Goulet, il va avoir Hudson, puis il va avoir Strouble. Ça, j'en suis pas mal convaincu. Mm-hmm. Je pense que Strouble a devancé Jacka tant qu'à moi. Ensuite, est-ce que là, Jacka va être parti? Logan Mailloux, moi, je pense qu'il va être dans cette brigade-là. Fait que, tu sais, Harris, Barron, peut-être les deux, même, vont partir. Donc, mais certainement, là, Ryan Backer, Hudson et Goulet. Après ça, moi, je rentre Strouble dans le mix et Logan Mailloux.
Ouais, ben moi aussi, je suis quand même fan de Strabo. Là. Malgré qu'hier, je trouve que c'est la première fois que j'ai vu Strabo avoir de la difficulté dans une rencontre contre les Sénateurs. Mais pour vrai, depuis son arrivée à Montréal, ce gars-là est excellent. Donc, moi aussi, je le vois dans le top 6 du Canadien Montréal dans les prochaines années.
Pas top 4, mais top 6, certainement.
Top 6, je pense. Ouais. À moins que le gars explose, on sait jamais ce qui va se passer.
Ouais, parce que c'est pas offensif. Là. C'est vraiment très défensif, Strabo, mais il fait très bien ce qu'il fait défensivement.
Moi, dans mon monde idéal, OK. Je vois Lane Hudson être le carrière du Canadien Montréal. Moi, c'est pas
vous dire à quel point j'ai autant d'espoir.
Pas juste sur l'avantage numérique. Je parle que ce soit le défenseur numéro 1 du Canadien Montréal, comme Quinn Hughes est en ce moment pour les Canucks de Vancouver depuis 2020. Mais depuis le début de 2020. Ça, c'est ce que je m'attends pour Lane Hudson. Évidemment, Ram Backer, c'est difficile de ne pas le voir dans le top 4 du Canadien Montréal, surtout que c'est un cinquième show total, là. Dans une année où le Canadien de Montréal avait la possibilité de repêcher plein d'attaquants qui peuvent être des attaquants d'impact dans l'international d'hockey dans les prochaines années. Donc, c'est très difficile de ne pas voir David Rambacher dans le top 4 dans les prochaines années. Gamal Kainougoulé aussi est excellent là, pour l'avoir vu jouer. C'est un défenseur qui est formidable. Ouais. Moi, le seul doute que j'ai, c'est vraiment... C'est sa production offensive que je suis comme un peu moins certain. Est-ce que ça va ressembler à McDonough? Est-ce qu'il va ressembler à Mathias Ecombe dans le sens que c'est un bon défenseur, mais que tu vas peut-être être un top 2, peut-être top 4, je ne sais pas trop. On verra qu'est-ce qui se passe, mais...
Je pense que sa production offensive va augmenter. Moi, j'ai quand même assez là-dedans. Je pense qu'un McDonough, ça aurait du sens. Hein.
Ouais, ben c'est ça. Peut-être c'est ça. Moi, c'est plus dans ce sens-là, mais t'es en espérant que le gars explose sa production offensive. Sinon, c'est ça. Du côté gauche, je vois. C'est ça. Du côté gauche, pour moi, c'est Lane Hudson, Goulet et Strouba comme troisième.
Je suis d'accord avec ça.
Du côté droit, en fait, Ron Backer devrait être la première option à droite, selon moi, dans les prochaines années. Là. Et. Ouais. Pour la suite, vraiment, ça va vraiment être un combat. En fait, ça va être il va y avoir de la concurrence entre Mayu et Barron, à mon avis. Là, moi, je vois pas.
Harris qui peut jouer à droite.
Harris qui peut jouer à droite, mais je vois pas Harris faire partie de l'avenir du Canadien Montréal dans les prochaines années.
Ouais, Harris, c'est un autre gars qui pourrait être échangé. Là, ça, c'est
mais sûr. Pourtant, Harris, c'est pas un mauvais défenseur loin de là.
Non. Je pense que j'aime mieux Harris que Barron, honnêtement.
C'est ça, tu sais, c'est un défenseur très fiable. Je comprends pourquoi le Canadien Montréal l'utilise autant et pourquoi le Canadien l'aime autant. Puis, tu sais, je m'attends pas à avoir un Kovacevic les prochaines années. Je m'attends pas non plus à avoir Jacky. Jacky, je sais que Jacky est un des joueurs favoris chez les partisans du Canadien Montréal. Donc, je sais que ça peut venir contrarier plusieurs partisans, mais pour moi, Jacky, honnêtement, j'ai extrêmement de la misère à comprendre son utilité à Montréal. Honnêtement, à part des mises en échec. Mais moi, je comprends le côté physique et le côté intimidant dans le jeu d'abord de Jacky, mais on l'a vu cette année, il a tendance à prendre des mauvaises décisions avec son point fort. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment de la misère à comprendre l'utilité d'abord de Jacky. Et se battre, je m'excuse. Mais on n'est pas dans les années 80. On n'est ni dans les années 90. On est en 2024. L'Indian hockey, c'est plus une réalité où tu as besoin d'avoir un agitateur ou, dans le cas d'Arba Jacka, il y a un homme fort. C'est fini, cette époque-là. Là. On le voit avec Ryan Reeves du côté de Toronto. Est-ce que l'acquisition de Ryan Reeves est justifiée? Non.
Ben non, je ne sais même pas s'il joue beaucoup de games. Là.
Non, il ne joue pas beaucoup de matchs du côté de Toronto. Il n'est pas utile en ce moment-là. Peut-être qu'il est utile dans le vestiaire. Mais,
peut-être qu'en série, il va light live.
Peut-être va être light aussi, mais on le voit du côté, on regarde les dernières équipes gagnantes de la Coupe Stanley, que ce soit Las Vegas l'année passée. Las Vegas, OK, oui, il y a plusieurs joueurs costauds qui peuvent jouer physique.
Costaud et batailleur, c'est pas la même chose.
Mais. C'est ça, exactement. Mais c'est des joueurs extrêmement talentueux là, du côté de Las Vegas, du côté de l'Avalanche Colorado. Je m'excuse, là, mais c'était pas des gros joueurs. Là. C'était des joueurs talentueux. Même chose du côté de Tampa Bay, où Tampa Bay avait seulement Patrick Maroon. Mais Patrick Maroon avait l'expérience de gagner la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. Mais si tu regardes ça, c'est pas tant. Tu peux avoir un aspect physique dans ton jeu, mais
ça en prend un. Oui, c'est des grosses équipes quand même, Vegas puis Colorado.
C'est exactement.
C'est pas la bataille ou quelqu'un de batailleur, c'est pas nécessaire. T'sais, tu vois, Curtis McDermid qui a gagné la coupe avec Colorado n'était pas utilisé, si je ne me trompe pas, en série.
Non.
C'est justement parce que c'est un gars costaud, c'est un gars batailleur, mais il n'est pas mobile et il n'était pas serviable à l'Avalanche. Donc, tu vois que ces gars-là, s'ils sont bons, s'ils sont mobiles et costauds, c'est le meilleur des mondes. Mais si tu manques de mobilité, ça ne marche plus là, dans la ligne.
Mais malgré que Jacky n'est pas mobile dans cet aspect-là.
Il est quand même assez mobile, Jacky. C'est juste
c'est pour quelqu'un de sa
relance, ses décisions défensives, c'est pas nécessairement celle d'un... je pense qu'il peut avoir sa place dans un top 6, même le Canadien, ou ailleurs dans la Ligue nationale.
Ouais.
Je pense vraiment que c'est pas nécessairement un joueur de Ligue américaine. Je pense qu'il peut
être
un
joueur
de Ligue
nationale. Non, moi non plus. Je pense que c'est un joueur LNH.
C'est un joueur LNH. Mais c'est pas un gars qui vaut un choix de première ronde ou qui est intouchable.
Mm-hmm. Mais je suis en accord avec toi, Ali, dans le sens que faut que Zé Montréal réussit à se départir de plusieurs défenseurs pour aller chercher un attaquant dans le top 6. Que ce soit un joueur de centre ou un ailier vraiment un excellent ailier là, qui peut marquer, peut marquer une trentaine de buts, là, un peu comme c'est le cas pour Cole Caulfield. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, je suis très content de l'évolution de Slafkovský cette saison.
Mm-hmm.
On le voit de plus en plus confiant, on le voit tenter des chances, on le voit à quel point il est excellent depuis plus d'un mois avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, sa première ligne du Canadien Montréal. Donc, moi, j'ai confiance en ce que Slafkovský explose dans les prochaines années et qu'il devient un ailier top 6. Tu sais, je m'attends pas à une quarantaine de buts puis à 80 points comme on peut s'attendre dans le premier joueur total, mais s'il est capable de marquer 30 buts puis d'avoir une soixantaine de points tout en gardant son style de jeu, je pense que le Canadien Montréal va sortir gagnant de tout ça. Là, donc,
j'ai
je suis très content de ça. Moi, ce qui me surprend en ce moment quand je regarde les statistiques, c'est l'apport offensif de Malcolm Matheson. Malcolm Matheson, on le sait, cette saison, dans sa zone, c'est un peu plus difficile. Tendance à prendre des mauvaises décisions, a tendance
beaucoup de revirements défensivement.
Non, pas juste beaucoup de revirements, mais ça, c'est aussi peut-être tenter des risques, prendre trop de risques.
Ouais. C'est un défenseur à risque. Il n'est pas flamboyant comme Piqué Subban l'était, mais il rentre dans la catégorie de défenseur qui prenait des risques comme Piqué. Fait que c'est pas un Subban. Subban était électrisant plus que Matheson l'est, mais ça rentre dans la même catégorie qu'un joueur comme Subban, tant qu'à moi, qui fait de l'excellent travail offensivement. Ceci dit, je ne peux rien lui enlever offensivement. Là, 31 points parmi des bons défenseurs au niveau des points dans la Ligue. Mais comme tu l'as dit, dans sa zone, c'est assez compliqué souvent. Quoique, il est tout de même étudiant en désavantage numérique. Il n'est pas mauvais défensivement, mais c'est sa prise de décision souvent.
Ouais, mais aussi, c'est parce qu'en même temps, je pense qu'il est surutilisé aussi du côté de Montréal, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'options en ce moment. Il joue beaucoup trop de minutes, là. C'est tout à fait normal là, avec David Savard aussi. Là. Mais David Savard est très, très utile. Là. Par contre, pour vrai, je trouve ça dommage que David Savard soit à Montréal en ce moment et pas au moment ou pas dans un moment où Canadien Montréal est dominant. Parce que je sens que si Canadien Montréal, par exemple, était dans une position pour se qualifier en séries éliminatoires, là, David Savard était utile de fou là, à Montréal. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Dernière chose avant qu'on. Mais avant qu'on passe dans un tour d'horizon à l'extérieur de hockey, pour la deuxième moitié de saison, tu t'attends à quoi, Ali, en général, du côté de Montréal?
Je m'attends à peu près à la même chose qu'on a vécu dans la première moitié de saison. J'espère qu'on va voir que les blessés vont arrêter de s'enchaîner. Là. J'espère que Newhook va revenir au jeu. Bon, les saisons de Dak et de Vorak sont déjà arrêtées, mais Newhook, Pearson aussi, peut-être qu'il pourrait revenir au jeu. Écoute, je m'attends à ce que Caulfield garde. J'espère que Caulfield ne va pas retomber dans une léthargie. Sinon, Josh Anderson qui pourrait revenir au jeu également, ça ferait du bien. Parce que là, des gars comme Mitchell Stevens ou Michael Pezzetta, je les aime bien, là, mais je pense qu'on peut avoir de meilleurs joueurs sur notre quatrième trio. Mm-hmm. Un gars comme Joshua Roy, j'ai aimé quand même ses débuts dans la Ligue nationale. Et tu parlais de Savard, là, juste raconter une petite anecdote. David Savard, Harvey Pinard, Roy et l'autre Québécois qui est... C'est qui l'autre Québécois dans les Canadiens?
Le Montembeau.
Montembeau, voilà. Et Montembeau sont allés souper là, après les premiers matchs de Roy. Là, et c'est David Savard qui a payé le bill. Et, donc, c'est une belle expérience pour Joshua Roy à travailler avec les Québécois du Canadien. Donc, Savard, c'est non seulement le plus fiable défensivement dans la brigade défensive du Canadien, probablement, mais qui prend beaucoup de minutes. Mais c'est aussi un peu un papa dans le vestiaire et pour les joueurs québécois. Donc, bravo à David Savard là-dessus. Mais sinon, c'est ça, je m'attends à ce que Cole ne tombe pas dans une léthargie. J'aimerais ça qu'il atteigne, qu'il puisse atteindre 30 buts. Suzuki, pourquoi pas battre son record de points qui est de 66. S'il est capable d'aller chercher plus que ça, un 70. Retour au jeu de plusieurs joueurs, moins de blessés possibles. Montembeau, j'espère qu'il va continuer d'être bon. Allen, j'espère qu'il va être bon pour également se faire échanger et avoir un bon retour pour lui. Puis, écoute, c'est pas mal ça. Un 500 pour finir l'année. Puis même si on n'a pas 500, ben écoute, on aura un meilleur joueur au repêchage si on finit plus bas. Donc, les résultats m'importent peu. C'est plus la qualité de jeu puis la progression dans le jeu du Canadien qui, je pense, est satisfaisante jusqu'à maintenant cette année. Puis j'espère la même chose pour le reste de cette saison.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord là aussi. Ben, comme tu as mentionné, là, il va y avoir plusieurs joueurs du Canadien Montréal qui vont venir de blessure, là, que ce soit Josh Anderson, Alex New York aussi qui risque de revenir pendant la deuxième moitié de la saison. Également Tanner Pearson aussi qui en a oublié, qui risque également de revenir. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté du Canadien Montréal. Par contre, saison terminée pour Dvorak. Également, bon, ça fait un bout aussi qu'on sait que Kirby Dang ne reviendra pas. Hâte de voir aussi Josh, comme tu as mentionné, Joshua Roy. Est-ce qu'il va terminer la saison du côté de Montréal? Est-ce que dès que les blessures vont venir, dès que les joueurs blessés vont venir dans l'alignement, est-ce que Joshua Roy va retourner du côté de Laval? T'es? Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le cas de Joshua Roy, mais c'était très cool de voir son premier but contre les Devils explosés. Ouais. C'était vraiment tout un jeu de la part de Shamanen qui, honnêtement, aurait pu marquer. Là. Puis il a décidé de faire un jeu pour offrir un but dans un filet désert presque à Joshua Roy. Là.
Ben là-dessus, là, tu parles de Monahan, belle passe. Mais aussi Simon Nemec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur cette séquence-là, je ne sais pas si tu l'as revu, mais il n'a probablement pas vu que Roy n'était pas allé vers le deuxième poteau. Mm-hmm. Deuxième poteau, ce n'est pas une expression qu'on utilise au hockey, mais bref, vous comprenez. Joshua Roy a juste resté en 45 degrés à Monahan. Et Nemec a complètement raté sa couverture défensive. S'il restait où il était, il bloquait l'option passe, mais a décidé de se tasser. Je ne sais trop quelle raison. Et là, ben, passe facile pour Monahan vers Roy. Et voilà, c'était fait le premier but. Donc, Simon Nemec, vraiment pas un bon match de son côté là, contre le Canadien. Ouais.
Mais on va parler des Devils de New Jersey dans la surprise d'inscription, là, parce que Devils de New Jersey, c'est un cas assez intéressant. Bon, pour le Canadien Montréal, il reste à peu près 37 matchs cette saison pour eux. Et comme tu l'as mentionné, on s'attend pas à ce que le Canadien Montréal se qualifie pour les séries éliminatoires, mais on s'attend à de la progression de la part d'autres joueurs du CH d'ici la fin de la saison. Et ça risque d'être intéressant de voir ce qui va se passer à Montréal pour la fin de saison, que ce soit d'ici la date limite de transaction et après la date limite de transaction, et surtout pendant l'entre-saison. Ça, c'est vraiment là que j'ai hâte de voir du côté du Canadien de Montréal. On sait que c'est Ken Hughes peut faire là, pendant la saison morte là, depuis son arrivée. Là. Déjà que hier, en plus, c'était les 2 ans de l'arrivée de Ken Hughes en plus à Montréal. Donc,
c'est vrai, déjà, le temps passe vite. Hein?
Oui, déjà, donc ça va être assez fou. Ça veut dire que très bientôt, ça va être également les 2 ans de Martin Saint-Louis derrière le banc de
Moi, il est arrivé en février, si je ne me trompe pas.
Oui, il est arrivé peu de temps après. Mais je ne me rappelle plus si Duchamp avait été congédié après l'arrivée de Kent Hughes, ou si c'était un peu
Duchamp, c'était après Kent Hughes.
Ouais, OK, c'est bon. C'était juste ça que je voulais vérifier. Merci.
Il me semble au début, Kent Hughes voulait faire le reste de l'année avec Duchamp, mais finalement, il l'avait congédié plus tôt que ça.
Ouais. Maintenant, on va aller ailleurs dans l'excellent de hockey. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode, on est déjà rendu à la moitié, un peu plus de la moitié de la saison dans l'excellent de hockey. Là, on va On va parler de plusieurs choses. On va parler de nos surprises, de nos déceptions. Après ça, je vais parler de, en fait, de tes gagnants de plusieurs trophées importants dans les séances de hockey pour la première moitié de saison. Mais d'abord, on va commencer avec les surprises, déceptions. Là, en ce moment, si je regarde le classement général dans les séances de hockey, on va commencer avec une belle surprise. Déjà, que les Canucks de Vancouver se retrouvent premiers dans les séances de hockey cette saison. Ça, c'en est une surprise, toute une belle surprise, surtout avec, encore une fois, l'éclosion de Quinn Hughes sur, encore une fois, Elias Pettersson qui continue sur sa belle séquence de l'année passée, un JT Miller qui est excellent, et surtout le retour en force de Brock Besser cette saison. Es-tu vraiment toi aussi surpris de ce début de saison fantastique des Canucks de Vancouver?
Ben oui, honnêtement, je n'aurais jamais prédit ça qu'il terminerait au premier rang de pas terminé, là, mais qu'il soit aussi dominant, puis encore une fois rendu à la mi-saison. Là, il avait commencé très fort, mais là, je me disais, ils vont peut-être descendre un peu. Ils maintiennent le rythme. Tu as parlé de JT Miller, Quinn Hughes et Elias Pettersson. Ils jouent le meilleur hockey de leur carrière présentement, puis ça fait payer. Rick Tocchet, je crois, est un excellent coach qui sait vraiment bien manier cette équipe-là. Thatcher Demko, très bon travail défensivement. Un gars comme Dakota Joshua qui joue du bon hockey aussi. Toute l'équipe travaille dans le bon sens et ça fonctionne très bien du côté des Canucks qui ont un effectif talentueux, honnêtement. Là, donc, quand tout clique puis que le talent est là et le travail est là aussi, ben écoute, ça se passe très bien là, pour Vancouver. Et donc, non, je ne m'y attendais pas, mais tu regardes l'effectif puis tu dis, ben c'est vrai, ils ont le talent puis ça marche du côté de Vancouver. Philippe Ronek également qui va très bien. Donc, oui, je suis surpris. Puis, en effet, c'est une surprise qu'il soit au premier rang présentement, mais c'est mérité côté des Canucks.
Mm-hmm. Ben, écoute, tu as mentionné, là, tu as comme tous les joueurs qui. Tous les joueurs vedettes des Canucks de Vancouver qui arrivent à leur apogée là, en même temps ou presque. Là, à part JT Miller qui est un peu plus vieux, là, mais tu que tu parles de Thatcher Demko. Brock Besser, Quinn Hughes et Elias Pettersson, c'est des joueurs qui sont âgés entre 24 et 27 ans là, pour la majorité. Donc, c'est quand même intéressant de voir ces joueurs-là qui sont dans l'organisation depuis de nombreuses années arriver où ils commencent à arriver dans leurs années importantes dans leur carrière. Là, peut-être qu'en ce moment, on ne voit même pas l'apogée de ces joueurs-là. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de voir ça du côté des Canucks de Vancouver. Moi, comme je t'ai dit, c'est le retour de Brock Besser, moi, qui me surprend aussi. Le plus. Il y a eu des rumeurs pendant les dernières années de départ de Brock Besser de Vancouver. C'est jamais arrivé cette saison. C'est en 45 matchs, c'est 46 points, dont 27 buts pour Besser, qui se retrouve parmi les meilleurs buteurs dans l'extérieur de hockey. Si on regarde ses statistiques depuis 2020-2021, c'est à part la saison 2020-2021 qui était presque à un point par match, le reste depuis 2021-2022, c'est 46 points en 71 matchs, 55 points en 74 matchs, moins de 25 buts. C'est sa première saison de plus de 25 buts depuis 2019. C'est fou, là, du côté de Brock Besser. Là, donc, c'est quand même assez surprenant de voir le retour en force de Brock Besser qui, on le sait, est un joueur hyper talentueux là, qui avait été finaliste au trophée Calder sa première saison, qui avait eu des bons moments du côté de Vancouver. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Canucks de Vancouver. Puis, tu as mentionné, c'est une équipe talentueuse. Tu as aussi Kuzmenko qui est dans le top 6 aussi des Canucks. Tu as Thatcher Demko qui, pour moi, a toujours été un excellent gardien de but, mais qui a eu des moments difficiles. Puis là, maintenant, avec Rick Tocchet comme entraîneur-chef des Canucks, je sais pas si les Canucks vont terminer premier dans l'association de l'Ouest et dans les séances de hockey, mais ils sont bien partis pour terminer parmi le top d'un excellent de hockey. Également, une autre équipe aussi que je voulais mentionner qui surprend, une autre équipe canadienne, c'est les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, en ce moment, sont premiers dans la division centrale, sont troisièmes d'un excellent de hockey. C'est quand même fou là, de voir cette performance des Jets de Winnipeg après toutes les histoires qui sont sorties au courant des dernières années, là, que ce soit Blake Wheeler qui s'est fait retirer son C il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, plusieurs joueurs qui voulaient partir, Rick Bonus l'année passée après l'élimination des Jets de Winnipeg contre Las Vegas, qui tout simplement dit que ces joueurs n'était, en fait, comment je pourrais dire ça, en étant poli,
ben que ces joueurs-là... C'est pas Paul Maurice qui avait dit ça?
Hein?
C'est pas Paul Maurice qui a dit ça?
Non, Paul Maurice était parti, parce que Paul Maurice est parti depuis deux ans, il était...
Oui, ok, mais c'est Rick Bonus qui a dit, ça de ses joueurs des Jets, mais j'avais oublié ça.
Il a dit que ses joueurs ne donnaient pas tout sur la patinoire, disons-le comme ça, là, que ses joueurs manquaient un peu de chien pendant les séries éliminatoires de 2023, notamment parce qu'ils avaient perdu en 5 rencontres contre Las Vegas et qu'ils n'étaient pas dans le coup. Mais c'est quand même, ça reste une surprise, surtout que Carl Connor a raté plusieurs semaines d'activité là, en raison d'une blessure. Donc, c'est surprenant là, de voir une équipe comme Winnipeg se retrouver troisième dans les séries de hockey et surtout se retrouver au premier rang de la division centrale devant l'Avalanche Colorado, qui est quand même une des meilleures équipes depuis de nombreuses années dans les séries de hockey.
Ouais, ben, en effet, les Jets, je m'attendais pas non plus à aller voir là du tout. Là. Comme tu as dit, avec tout ce qui s'était passé dans les dernières années au niveau du vestiaire. Plusieurs points intéressants du côté des Jets. Premièrement, je pense que ce qui a vraiment aidé cette équipe-là, c'est qu'on a gagné de loin l'échange de Pierre-Luc Dubois. Gabe Vilardi a manqué le début de la saison, mais est très, très bon depuis qu'il est de retour. Ayafalo et Kupari, je n'ai pas vraiment suivi comment ils vont, mais juste avec Vilardi, presque l'échange de Dubois est gagnant pour les Jets. Sinon, il y a la troisième ligne des Jets de Winnipeg qui fonctionne extrêmement bien. Plusieurs l'appellent comme étant la meilleure ligne, la meilleure troisième ligne de la Ligue nationale. Puis tu regardes cette profondeur-là, puis le nombre de points qu'ils sont capables de faire et de également d'être solides défensivement. Là, Adam Lowry, Nino Niederreiter et Mason Appleton. Appleton, Lowry, c'est des joueurs qui sont extrêmement bons défensivement. Et là, tu rajoutes à ça Niederreiter qui ajoute un petit côté offensif également. Ça fait que c'est une ligue extrêmement équilibrée qui est un troisième trio de feu qui est capable de prendre beaucoup de minutes puis d'affronter des bons trios adverses. Puis ensuite, ben, tu as les gros canons des Jets qui, tu sais, Connor a quand même presque 20 buts, je pense, même s'il a manqué le début de la saison. Ehlers va bien. Mark Scheifele, qui a finalement décidé de rester à Winnipeg, va très bien. Hellebuck garde le fort dans les buts. Il est l'un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale depuis plusieurs années maintenant. Perfetti qui va bien, là, un jeune niveau de la défense. Ben, tu as Josh Morrissey qui a connu une grosse saison l'an passé, va très bien encore. Tu as des joueurs qui sont assez fiables comme des Nate Schmidt ou des Brendan Dillon. Donc, écoute, encore une fois, les Jets, on ne s'y attendait pas. Ça n'allait pas très bien dans les dernières années, mais tu regardes l'alignement qu'ils ont, puis ça fait quand même du sens qu'ils aient du succès parce qu'il y a du talent puis il y a du travail de ce côté-là. Donc, dans l'Ouest, c'est quand même ouvert. Du côté de l'Est, c'est plus ouvert qu'on pensait avec les Flyers, entre autres, qui surprennent beaucoup. Mais du côté de l'Ouest, il y avait de la place à des surprises comme ça. Puis ben, les équipes ont pris leur occasion pour surprendre et beaucoup plus que le monde pensait en s'installant là, dans les sommets de la Ligue nationale. Donc, bravo aux Jets puis aux Canucks qui roulent bien. Puis quand tout le monde roule bien, ben, ça donne de bons résultats.
Ben exactement, t'as tellement bien mentionné qu'est-ce qui se passe du côté de Winnipeg. Je ne vais pas rajouter d'autres choses pour cette équipe-là qui continue de surprendre cette première moitié de saison. Ben, en fait, même pas première moitié de saison, on est rendu deuxième moitié de saison. Donc, chapeau aux Jets de Winnipeg qui... ben, en fait, on connaissait la réputation de Rick Bonus, on savait que c'était un excellent entraîneur-chef. Puis, en plus, il a raté plusieurs matchs aussi là, parce qu'il devait... il devait être au chevet de sa femme qui était malade. Donc, même avec leur entraîneur adjoint, les Jets de Winnipeg ont réussi à rester parmi les meilleures équipes dans les salles de hockey et également de finir, ben, en fait, pour l'instant, être premier de la division centrale. Là, tu as parlé d'une équipe qui surprend, puis d'habitude, ça ne me tenterait pas de parler de cette équipe-là, mais on n'a pas le choix. écoute, on doit parler des Flyers de Philadelphie, là. On s'entendait sur que les Flyers de Philadelphie soient dans les bas-fonds d'un salle de hockey, mais là en ce moment ils sont deuxièmes dans la division métropolitaine. Ils se retrouvent à 2 points seulement des Rangers de New York. Bon, il y a un match en plus, mais quand même reste à 2 points des Rangers de New York. Écoute, chapeau aux Flyers, hein, honnêtement là, ça me fait mal de dire ça, mais honnêtement, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui se débrouille très bien. Tu as Travis Konecny qui a toujours été excellent et qui, à ce moment, connaît une grosse saison. Tu as un gars comme Owen Tippett qui, depuis son échange de la Floride à Philadelphie, est un des bons joueurs de cette formation-là. Également aussi, l'autre point important, c'est le retour cette année en santé de Sean Couturier. Ça aide grandement les Flyers de Philadelphie. Puis évidemment, ben, tu as d'autres joueurs d'importance, qu'on pense à des Scott Lockton, à Joel Farabee. Il y en a d'autres là, aussi du côté de Philadelphie, là, à moins que j'en oublie quelques-uns. Puis également, ben, tu as la défense, tu as des Cam York, Travis Sanheim, qui sont là pour mener cette équipe-là. Et également aussi, ben, tu as Carter Hart qui est excellent depuis le début de saison du côté de Philadelphie. Donc, Oli, rapidement, là, qu'est-ce que tu penses en fait de cette équipe-là qui est quand même dirigée par John Tortorella? Puis John Tortorella, ben, c'est pas le préféré de plusieurs personnes initiales dans le hockey. Mais c'est pas mon cas, par contre. J'aime bien John Tortorella, mais c'est pas le préféré de tout le monde.
C'est pas le préféré de tout le monde, mais on doit s'entendre pour dire que c'est un excellent coach. Là. Ce qu'il fait avec les Flyers, c'est impressionnant. Contrairement aux Canucks et aux Jets, tu as nommé plusieurs joueurs de la formation. Là. On ne s'attend pas, vraiment pas, à ce que les Flyers fassent ce genre de performance-là et la maintienne, là, tu sais, moi, ils ont commencé la saison fort. Je me suis dit, ils vont finir par baisser, là, c'est les Flyers. Mais non, puis là, de plus en plus, sont en train de montrer qu'ils vont être des séries éliminatoires. Et ça me surprend grandement. Pas un fan des Flyers, moi non plus. Mais je dois leur donner tout le crédit qui leur revient. Parce que vraiment, c'est ça. Tu regardes l'alignement, là. Il y a des bons joueurs, là. Tu as parlé de Konechny, Tippett, Couturier. Mais la défense, il n'y a rien de si solide de ce côté-là. Là, on vient d'ajouter Drysdale. Ristolainen, ce n'est pas le plus fiable. Tu as Sean Walker qui joue une excellente saison. Zamula qui sort d'un peu nulle part. Cam York qui est un jeune. Sealer, Sanheim font du bon travail. On a acheté Drysdale. Mais ce n'est vraiment pas une équipe que tu dis « Ah, c'est une équipe de série. » C'est vraiment une équipe en construction. À peu près au même niveau que le Canadien de Montréal, je dirais. Mais c'est comme... À cause de Tortorella, à cause des circonstances, une équipe qui joue très bien et qui est capable de maintenir ses performances, ben on surprend. Puis ça, vraiment, pour moi, c'est la surprise. Plus que les Canucks et les Jets, parce que comme je l'ai dit, les Canucks et les Jets, tu regardes leur alignement, il y a quand même beaucoup de talent et une équipe qui, c'est raisonnable, c'est censé de faire les séries. Les Flyers, pas du tout. Donc, vraiment, ma plus grosse surprise de cette saison jusqu'à maintenant. Félicitations aux Flyers.
Ouais, ça fait mal à dire, mais
ça fait mal à dire.
C'est quand même une équipe qui surprend. Est-ce que tu as d'autres surprises du coup dans l'excellent hockey que tu aimerais parler?
Ouais, ben c'est sûr, les Bruins de Boston, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient encore une fois au sommet. On en a parlé là, lors du dernier podcast, mais la perte de Bergeron au Krejci, moi je pensais que ça allait finir enfin par couler les Bruins. Ben non, donc il faut Pastrnak qui est Marchand, qui joue encore du gros hockey, McAvoy. Le duo Ullmark-Swayman, ben surtout Swayman cette année, mais qui sont excellents. Les Panthers de la Floride aussi, c'est une bonne équipe là, sur papier. Et Sam Reinhardt, on va en parler plus tard, je pense, mais grosse surprise, lui qui a 33 buts. C'est incroyable ce qu'il fait de son côté. Puis Mathieu Tkachuk, qui n'a pas une si grosse saison, mais que les Panthers réussissent à être très bons quand même. Donc, ces deux-là, le Bruins et Panthers, me surprennent quand même, même si ce n'est pas des énormes surprises non plus. Sinon, ça va plus dans les déceptions, donc j'en parlerai plus tard. Mais oui, dans l'Ouest, là, on a parlé des Canucks et des Jets. Je pense que c'est les deux plus gros à mentionner. Il y a les Coyotes qui m'impressionnaient en début de saison. Là, ils ne sont plus du portrait des séries. Mais il y a quelques semaines, ils étaient du portrait des séries. Donc, eux, c'était une surprise quand même parce qu'eux non plus, là, c'est pas une équipe qui était censée être en série. Je pense qu'ils vont les manquer quand même. Mais c'était un beau travail d'André Tourigny quand même avec cette équipe des Coyotes.
Puis en même temps aussi, au départ, j'avais de la misère à comprendre pourquoi les Coyotes avaient donné une prolongation de contrat à André Tourigny, mais là, en voyant les prouesses des Coyotes depuis le début de la saison, bon, ils sont pas dans le portrait des séries, mais quand même, c'est une équipe c'est une équipe qui a été dans le portrait des séries pendant un petit moment, et là, je comprends pourquoi l'organisation des Coyotes aime autant André Tourigny. C'est vrai que c'est un excellent entraîneur. Et c'est un excellent entraîneur québécois aussi, il faut le mentionner.
Oui, puis pour développer les jeunes, tu sais, il a coaché l'équipe Canada Junior plusieurs fois. Puis c'est un gars qui a le tour avec les équipes de jeunes comme ça, qui est capable de les faire progresser. On le voit bien avec les Coyotes.
Là, maintenant, parlons des déceptions. Écoute, il y a plusieurs déceptions, mais on va s'attendre pour dire que la plus grosse déception, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Là. Sérieusement, de voir les Sénateurs d'Ottawa se retrouver au dernier rang dans l'association de l'Esbon, ont 4 matchs en main sur les Blue Jackets de Columbus, mais reste quand même que se retrouve seulement à 32 points à 40, se retrouve dernier dans l'association de l'Est avec seulement 32 points à 40 matchs. Là, en ce moment, je suis quasiment en train de me demander, est-ce que c'est vraiment le bon noyau pour les Sénateurs d'Ottawa, ou est-ce que les Sénateurs d'Ottawa vont être obligés de transiger un de ces gros morceaux-là? Là, je parle des Brady Tkachuk, des Steam Stuzla, Drake Batterson, que ce soit en défense, Chabot, Chikrim qui viennent d'aller, qui ont été cherchés la saison dernière, et également Jake Sanderson. Est-ce que tu vois un gros morceau des Sénateurs d'Ottawa bouger au courant de la prochaine année, ou tu penses vraiment que c'est juste une question de circonstances qui ont fait que les Sénateurs d'Ottawa se retrouvent au dernier rang de l'association de l'Est?
Ben, je pense que là, vu que c'est une on a tout changé, là, c'est des côtés des Sénateurs cette année, là, c'est rendu Steve Staios qui est à la barre de cette équipe. On a congédié Dorion et DJ Smith. Là, Jacques Martin, clairement, je ne pense pas que c'est un choix à long terme pour les Sens. Mais voilà, je pense que la nouvelle direction va vouloir continuer avec ce noyau-là, parce que sur papier, c'est censé être un très bon noyau. Brady Tkachuk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un bon leader, c'est un très bon capitaine, je pense, pour une équipe de hockey. Après ça, tu regardes jouer les Sénateurs hier, là. C'est une espèce d'équipe quand même, là. Offensivement surtout, là, puis même défensivement, tu as mentionné Chikrin, Chabot, Sanderson. C'est un des meilleurs top 3 dans la Ligue nationale, probablement, en termes de défenseurs, là. Donc, c'est vraiment inexplicable pourquoi on est si mauvais du côté des Sénateurs encore cette année. Moi, je me disais, ça va être l'année. Là, on est allé chercher un Tarasenko. On a Giroud là, qui est encore très bon, Claude Giroud, du côté des Sénateurs. Tarasenko qui n'est pas mauvais non plus depuis qu'il est là. Stoudzile hier, qui a joué un fantastique match. Il est vraiment un joueur qui peut dominer dans la Ligue nationale. Donc, qui le fait pas encore comme on le voudrait peut-être. Excellente saison l'an passé, cependant. Batterson aussi peut-être un peu décevant. Là, tu as un Shane Pinto qui va revenir, tu as un Mathieu Joseph qui joue bien. On a vraiment une équipe qui aurait pu faire les séries éliminatoires en niveau talent là, du côté des Sens. Donc, je pense pas que la nouvelle direction va échanger des gros morceaux pour l'instant. Je pense qu'on voulait juste changer la direction et mettre le blâme sur la direction pour le moment. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr que si ça marche encore pas l'an prochain, peut-être que là, on va vouloir changer le noyau, mais je pense pas qu'on est rendu là côté des Sénateurs, parce que clairement que t'as des bijoux entre les mains, c'est juste que tu sais pas comment bien les assembler. Tiens, ça va être ma métaphore du jour.
Mais écoute, t'as raison, là, c'est une forme. Écoute, la métaphore était assez surprenante, mais.
Le collier n'est pas encore assemblé, c'est ça.
Non, j'ai l'impression que Justin Leblanc aurait pu sortir une citation de la sorte quand même.
Ouais, écoute, ça m'arrive.
Mais bref, non, mais t'as raison, là, du côté de Sénateurs d'Ottawa, là, c'est une toute nouvelle direction, là, que ce soit Steve Staios comme directeur général, que ce soit Jacques Martin comme entraîneur-chef par intérim des Sénateurs d'Ottawa. Il ne faut pas oublier que les Sénateurs d'Ottawa ont un nouveau propriétaire aussi, là, Michael Endlauer, là, qui est arrivé au début de l'année aussi. Là, donc,
Lui, il ne doit pas être très heureux là, de comment ça s'est déroulé. Là.
Non, c'est ça. C'est pas la meilleure façon de commencer ton mandat en tant que propriétaire des Sénateurs d'Ottawa. Mm-hmm. Mais écoute, c'est quand même décevant. Là. Tu regardes la formation. Là. On l'a vu, tu l'as parfaitement mentionné. On l'a vu hier à quel point cette équipe-là peut dominer offensivement. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu à plusieurs reprises lors des derniers matchs. Se retrouve avec des bonnes avances puis ils sont rattrapés en fin de rencontre. Donc, c'est quand même fou de voir les Sénateurs d'Ottawa avoir autant de difficultés cette saison. Également aussi, bon, il y a d'autres déceptions aussi. On peut mentionner les Sabres de Buffalo aussi qui se retrouvent encore dans les bas-fonds dans l'association de l'Est. Ça aussi, c'est très décevant. Une autre déception aussi, mais ça, je comprends un peu plus pourquoi, c'est les Devils de New Jersey. L'année passée, les Devils ont une saison absolument incroyable. Tu as un Jack Hughes qui était fantastique. Tu avais une défense incroyable. Tu avais une relève incroyable également. Tu avais des gardiens de but qui faisaient le travail, mais ce n'était pas des gardiens de but élites, là, que ce soit Vitek Vanecek, que ce soit Akira Schmidt, c'est ça? Je ne me trompe pas.
Akira Schmidt,
parce que j'avais oublié son prénom, mais Akira Schmidt qui était également bon à séries éliminatoires, mais là, cette saison, on se retrouve en ce moment à l'extérieur du portrait des séries éliminatoires, mais il y a une raison qui explique les difficultés de Devils de New Jersey. c'est les blessures.
Ouais.
Je pense
Doug Hamilton.
T'as Doug Hamilton qui ne reviendra probablement pas cette saison, à moins de. Ouais. Ou en tout cas, risque de ne pas revenir d'ici un bon moment. T'as Jack Hughes qui a raté plusieurs matchs en raison de blessures.
Ouais.
T'as Nico Hischier. Jonas Seguantala aussi qui vient de. Qui est parti en raison d'une blessure. Donc, ouais. Écoute, à part.
Les gros morceaux.
Je sais pas ce que t'en penses, à part des blessures, là, pour vrai, si c'était pas des blessures, je pense que les Devils de New Jersey se retrouveraient en ce moment parmi les meilleures équipes dans la métropolitaine, au moins. Là. Donc, moi, c'est une déception, mais c'est tout à fait logique quand on voit le nombre de blessés que les Devils ont eu cette saison. Là. Et également aussi, ouais. Je pense que tu allais le mentionner aussi, là, les gardiens de but aussi n'ont pas fait le travail.
Les gardiens, exact. C'est ce que j'allais dire, puis c'est le même principe pour les Sénateurs. Là, on n'en a pas parlé tantôt, mais Korpisalo ne fait pas le travail du côté d'Ottawa. Et Anton Forsberg a été blessé un bon bout de l'année. Là, donc, côté d'Ottawa aussi, les gardiens, c'est vraiment un problème. Et pour les Devils également, je pense que Vitek Vanecek n'est pas un numéro un. Puis là, c'est Nico Daz, Akira Schmid. Je ne sais pas s'il est redescendu ou s'il est blessé, mais c'est pas un. En tout cas, Daz, peut-être pour dans le futur, peut être un numéro un, mais Akira Schmid, on l'a vu que ça n'a pas nécessairement marché cette saison. Donc, même problème du côté des deux équipes. Il va falloir aller chercher un gardien de premier plan, probablement. Peut-être que du côté des Devils, on l'a avec Nico Daz, ça va être à voir. Là.
Ouais, mais écoute, la différence vraiment entre les Devils et. Les standards d'Ottawa, là, c'est que du côté d'Ottawa, l'été passé, Stanton avait décidé de donner un gros contrat à Jonas Korpisalo en se disant que Korpisalo pouvait être enfin le gardien de but numéro un qu'ils avaient besoin depuis le départ de Craig Anderson pour espérer enfin se rendre à la série éliminatoire. Puis tu l'as parfaitement mentionné, là, Korpisalo n'a tout simplement pas fait de travail depuis son arrivée à Ottawa. Donc ça, c'est vrai que c'est une déception. Et du côté des Devils de New Jersey, oui, t'as plusieurs gardiens de but, mais t'as pas un gardien de but avec un contrat et avec autant d'attentes que Korpisalo avait du côté des Standards d'Ottawa en début de saison. Donc, c'est vraiment ça peut-être la petite différence entre les deux équipes, mais c'est quand même le même constat aussi. Les gardiens de but ne font pas le travail. Également, rapidement dans l'Est aussi, autre déception. Bon, techniquement, je sais pas si on peut dire que c'est tant une déception que ça, mais il y a peut-être une anomalie, c'est les Penguins de Pittsburgh aussi. Quand tu regardes le cadre de classement là, du côté des Penguins de Pittsburgh, oui, en ce moment, ils se retrouvent en dehors du portrait de séries éliminatoires, mais tu as un différentiel de plus 16. Tu as Tristan Jarry et Alex Nedeljkovic qui font le travail dans les buts des Penguins de Pittsburgh. Tu as une défense qui va bien, qui n'a encore pas beaucoup de buts. Tu as Eric Carson qui produit pas au même rythme que la saison dernière, ça c'est vrai, mais
c'est la normal aussi.
C'est pas si pire que ça. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait normal. Là, avoir une saison de 101 points en tant que défenseur, c'est extrêmement rare. Là. Ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas un défenseur qui avait marqué 100 points dans l'incident de hockey. Mais tu regardes aussi, on va parler un peu plus tard, là, mais Sidney Crosby qui connaît une saison absolument incroyable. T'as Jake Guentzel qui connaît un excellent début de saison. T'as Malkin qui se débrouille encore bien pour son âge. Mais c'est une anomalie que Pittsburgh se retrouve pas dans le portrait de séries éliminatoires quand tu vois que la défense va bien, les gardiens de but vont bien, t'as tes joueurs vedettes qui vont bien, mais finalement, le problème, c'est, je pense qu'il est assez clair.
C'est la profondeur.
C'est la profondeur du côté des Penguins de Pittsburgh qui est absente. Là,
c'est fou. Là. C'est, tu l'as identifié, le problème, d'où facilement, là, c'est ça. Je regarde qui a marqué. Là, je fais mon petit tour sur l'application LNH là, presque à chaque soir. Quand il y a un match des Penguins, je regarde qui a marqué, qui est sur la feuille de match. Des Guentzel, des Crosby, des fois des Malkin. Presque jamais personne d'autre. C'est pas compliqué. C'est ça. Je serais intéressé là, d'avoir des statistiques de combien en pourcentage sur tous les points accumulés des Penguins cette saison. Malkin, Guentzel et Crosby, combien de pourcentage seulement eux ils prennent et également le temps Carlson qu'on peut rentrer là-dedans. Là. Mais puis de voir la proportion des autres joueurs de l'effectif, combien c'est quoi la proportion de points. Ça doit être effarant là, les statistiques, les résultats. Donc clairement que c'est ça les Penguins. Mais je ne dirais pas que c'est une surprise pour moi. Je m'attendais à les voir dans ce coin-là du classement, là, à batailler, projet série à batailler pour. Et je pense pas que c'est fini. Je pense que les Penguins là, sont niveau mathématique. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 48 points, 42 matchs. Ils ont moins de matchs joués que la plupart des équipes. Les séries sont encore atteignables pour les Penguins. Il faut bien finir la saison, puis c'est possible.
Non, c'est très possible, mais c'est juste que quand tu regardes vraiment quand tu regardes le différentiel, tu regardes la défense des Penguins de Pittsburgh, tu regardes les performances des gardiens de but qui ont souvent été critiquées au cours des dernières années, tu dis que tout devrait fonctionner normalement. Puis malheureusement, écoute, il y a un manque de profondeur. T'as Riley Smith qui va rater plusieurs semaines d'activité en raison d'une blessure. T'as Brandon Rust qui a raté plusieurs matchs à raison d'une blessure. Mais lui, en plus, qui avait quand même eu un bon début de saison là, du côté de Pittsburgh. C'est quand même 25 points à 29 matchs. C'est pas rien. Mais c'est juste qu'il est blessé. Mais si tu regardes le reste, tu regardes la troisième, quatrième ligne des Penguins de Pittsburgh. Écoute, je suis désolé, là, ça fait pas le travail. T'as Lars Eller qui est un bon joueur de soutien, mais il ne devrait pas être un troisième centre dans une équipe qui aspire non seulement à faire ses attentes, mais qui aspire à peut-être aller. Peut-être tenter d'aller chercher un dernier titre pour le noyau Crosby, Malkin, Nathan. C'est surtout ça que je pense qu'ils essayent au point qu'ils sont rendus dans leur carrière. Puis, sinon, le reste, ça regarde vraiment le bottom six, comme on dit en anglais, que ce soit Lars Eller, Joe O'Connor, Noel Achary, Jeff Carter, le vétéran qui a 39 ans, qui joue encore à Pittsburgh. Puis également, Niro, Zarna, bref, ça ne fait pas le travail. Ça ne fait tout simplement pas le travail. Ce n'est pas assez bon pour que les Penguins de Pittsburgh espèrent ce qu'elle fait à ses éliminatoires. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Okay? T'as un Crosby qui a un excellent, qui a eu une excellente première moitié de saison. Il y a quand même 25 buts. Il y a quand même 27 buts, c'est Nick Crosby cette saison. N'est-ce pas
rien, c'est mais... Crosby, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire.
Puis je vais en parler. Là, pour moi, Crosby, on va parler de quand on va descendre nos trophées pour la première moitié de saison. Pour moi, c'est si je peux lui remettre un trophée Selke, c'est à lui que je remettrais, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais bref, et Penguins, c'est quand même assez particulier. Sinon, dans l'Ouest, là, rapidement, là, si on regarde l'association de l'Ouest, ben, une équipe qui déçoit, encore une fois, c'est les Flames de Calgary aussi, là, qui sont pas exceptionnels cette saison. Il y a Huberdeau qui continue encore à avoir des difficultés. Sinon, tu sais, le reste, à part peut-être le Kraken, qui a de la difficulté aussi après leur
ouais, le Wild.
Le Wild aussi qui a de la difficulté. Mais le Wild, par contre, ça me surprend un peu moins parce que si on regarde la formation, pour vrai, en général, elle est moins bonne que celle, de par exemple, de 2022 qui ont été en saison 3 et qui étaient exceptionnels aussi. Puis qui après ça avait raté plusieurs matchs cette saison aussi, fait que ça aide pas. Mais sinon, si on regarde le reste, bon, t'as les Kings de San Diego aussi qui...
ils ont descendu les Kings, c'est vrai.
Ouais, peut-être les Kings, en fait. Dans l'Ouest, ce serait peut-être les Kings de San Diego.
Mais c'est pas une grosse déception parce que les Kings sont quand même proches, là, ils ont des matchs en main, là, tu sais.
Ouais, c'est ça, ils ont des matchs en main. Puis, pendant un bout, c'était les Oilers Edmonton, mais là, les Oilers viennent de gagner 12 matchs de suite, là. Donc, est-ce que c'est tant de déception que ça? Oui, ça l'était en début de saison, mais au final...
Les Oilers, on peut dire, ils ont remonté la pente, là.
Oui, c'est littéralement le cas. Puis, t'as quand même
McDavid elle est remontée au complet, la pente, là.
Non, au complet. Puis écoute, t'avais quand même McDavid qui avait la difficulté, mais en raison d'une blessure, mais que cette saison se trouve permis quand même les meilleurs pointeurs d'Instagram d'Hockey. Donc, je pense qu'ils vont faire essayer assez facilement. Est-ce que tu as une autre équipe que tu veux mentionner parmi les équipes décevantes cette première
non,
saison?
Non, tu parlais du Kraken un peu, du Wild, ça faisait le tour. Je pense qu'on peut passer au trophée en ce qui me concerne.
Wow, ben excellent. On va aller tout de suite dans les trophées. Pendant la première moitié de saison ou jusqu'à présent. Là, on va parler du fameux trophée, le trophée le plus intéressant selon moi, là, le trophée Hart. Okay?
Mm-hmm.
Il y a plusieurs joueurs qu'on peut mentionner dans cette. Je ne vais pas les nommer là, parce que tu sais, on sait qui sont ces joueurs-là. Mais selon toi, là, qui est en ce moment le joueur le plus utile dans l'extérieur d'hockey après 40 matchs?
Ouais, 40 matchs et un peu plus pour certains. Écoute, tu l'as dit, il y a plusieurs options. Pour moi, c'est une des seules années, là, ben, en tout cas pour l'instant, où est-ce que Connor McDavid ne figure pas parmi les candidats pour moi. N'a pas fait assez là, pour être dans mes choix personnels, du moins dans les trois premiers choix. Les deux noms que je priorise, il y en aurait trois en fait. Il y en aurait trois. J'ai, qu'on en a parlé plus tôt, JT Miller du côté des Canucks. Ce gars-là est cinquième meilleur pointeur, en fait quatrième meilleur pointeur à égalité avec Panarin. Jusqu'à maintenant, cette saison, incroyable. Je ne pensais jamais qu'il allait maintenir ce niveau-là jusqu'à ce point-ci de la saison. En plus, Miller, qui est vraiment très primordial au Canucks pour son aspect, son apport défensif. Donc, premier nom, ce serait JT Miller pour moi. Premier nom dans ceux que je vais nommer. Sinon, tu as Kucherov, bien entendu, Kucherov, meilleur pointeur de la saison, 75 points, sa vitesse de production, elle est incroyable, qui lui aussi qui est capable de maintenir ça, j'aurais Kucherov. Mais Kucherov est très bien entouré du côté du Lightning, puis Lightning est un peu décevant, donc ça ne serait pas mon premier choix, Kucherov. Ça se joue surtout entre MacKinnon et JT Miller que j'ai mentionné pour moi. MacKinnon, là, cette saison, il est exceptionnel. Oui, il joue avec Rantanen, Makar, c'est vrai, il est bien entouré. Drouin, effectivement, il est bien entouré, mais ce gars-là, là, il a la capacité de changer un match à lui tout seul quand il veut. Là. C'est son coup de patin, il marque quand il veut, il est présent dans plein de phases offensives du côté de l'Avalanche. Fait que Nathan MacKinnon joue probablement la meilleure saison de sa carrière présentement pour moi, avec l'an passé aussi, là, très bonne saison. Et pour ce qui est la définition d'un joueur, d'un Hart, là, d'un trophée Hart, pour le moment, moi, ce serait MacKinnon. Mais JT Miller, là, on doit le considérer aussi.
Ouais, non, c'est des excellents choix. Puis, pour avoir vu Nathan MacKinnon au Centre Bell lundi passé, là, il est impressionnant pour vrai. Là. Son changement de rythme, là, j'ai rarement vu quelqu'un avoir autant d'aisance à vraiment déstabiliser des joueurs adverses. Ouais, puis cette saison, cool. il est absolument exceptionnel avec l'Avalanche Colorado. Sinon, un autre choix aussi qui est quand même assez intéressant qu'on n'a pas mentionné, c'est Pastrnak, David Pastrnak du côté de Blues de Boston. Il a quand même 64 points cette saison. On se demandait est-ce que sa production allait diminuer avec le départ de Patrice Bergeron et David Krejci. Il se retrouvait pas avec un premier centre élite, mais on s'est rendu compte rapidement en fait que David Pastrnak est littéralement un des meilleurs joueurs dans l'histoire de hockey. Là, je pense qu'il
c'est incroyable ce qu'il fait. Ouais.
Non, pour moi, David Pastrnak est un joueur, mais je pense.
Ouais, il rentre dans la conversation aussi, c'est vrai.
Mais je ne veux pas être original, moi, mais mon choix, ça va être également Nathan MacKinnon.
Ouais.
Fantastique. Puis il y a eu plusieurs blessés importants du côté de l'Avalanche Colorado, là, que ce soit Landeskog qui soit encore absent pour. Toute l'année, Nishikin qui a raté plusieurs rencontres.
Bowen Byron.
Arturi Lekkonen aussi qui est blessé. Ouais. Donc, tu es juste avec Landeskog, Nishikin et Lekkonen.
Samuel Girard aussi qui a demandé le programme d'aide.
Oui, c'est la même chose également aussi du côté de Nishikin.
Nishikin, je pense que tu l'as fait un peu imposer là, de ce que j'ai lu.
Mais ça reste quand même que c'est. C'est la même catégorie, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est ça, tu as tout à fait raison. Mais reste quand même que ça représente trois joueurs de ton top 6, dont Landeskog qui est ton capitaine et ton leader, qui est absent. Qui est absent pour l'Avalanche Colorado depuis la conquête de la Coupe Stanley en 2022. Ouais. Donc c'est fou là, de voir Landeskog rater 2 ans d'activité. En raison de blessure, c'est très triste à voir. Mais bref, pour Nathan MacKinnon, c'est la meilleure saison de sa carrière. À 28 ans, il est vraiment à son apogée. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Oui, on sait que Rantanen, c'est un joueur élite, mais reste quand même qu'il est meilleur grâce à MacKinnon. T'as un Drouin qui est en pleine forme grâce à son ancien coéquipier, son coéquipier et son ancien coéquipier aussi, Junior MacKinnon. Et t'as Makar aussi qui est toujours aussi excellent en défense du côté de la Manche Colorado. Donc pour moi aussi, mon choix, ça va être Nathan MacKinnon. Bon, maintenant, je viens de parler de Cam Makar, c'est triste à dire, mais je voulais parler du trophée Norris. Makar, évidemment, je pense, va faire partie aussi de tes finalistes. Mais selon toi, là, en ce moment, qui est ton favori pour remporter le trophée Norris? Je sais qu'il est quand même encore très tôt là, pour le trophée Norris, mais il y a plusieurs noms qui sortent du lot.
Ouais, moi, ça joue pas mal entre Makar et Quinn Hughes, je dirais. Je pense que Quinn Hughes a une saison fantastique et il est une des raisons pourquoi les Canucks sont aussi bons. Peut-être moins complet un peu que Cale Makar pour ce qui est offensivement. Puis au niveau des points, je pense que Makar est au-dessus.
C'est pas mal proche. C'est le même nombre de points.
C'est le même nombre de points. Bon.
Okay. C'est juste que la différence, c'est que Quinn Hughes a quelques matchs de plus que Makar, là, mais à part de ça, c'est le même nombre de points, 53 points les deux. Donc,
OK, ouais, c'est ça. Fait que, donc, bref, ça se ressemble donc au niveau des points, mais défensivement, je pense que Quinn Hughes a pris une grosse marge de progression au niveau de sa production, son apport défensif, excusez. Les deux candidats, autant Makar que Quinn Hughes, se valent pour moi. J'ai peut-être un petit penchant pour Makar, là, mais écoute, ça, d'un côté ou de l'autre, ça me conviendrait comme choix.
Mm-hmm. C'est un autre candidat aussi intéressant, là, que ouais. C'est Noah Dobson du côté de New York. Victor Hedman qui était bon aussi. Malgré
Josh Morrissey encore. Là.
Josh Morrissey qui est très, très bon aussi. Ouais. Sinon aussi, Roman aussi, je vois qu'il a encore une fois un bon début de saison. Morgan Riley aussi du côté de Toronto aussi, qui se débrouille très bien avec les Leafs. Il y a d'autres choix là, intéressants, mais moi mon choix est également Quinn Hughes. C'est Quinn Hughes. Ouais, excuse-moi, dans ma tête, t'avais dit Quinn Hughes, mais c'est
ben, moi. J'ai ma soeur. Mais écoute, les deux choix
sont serrés.
Les deux choix sont bons.
Les deux choix sont valables. Donc, ouais. Mais moi, je vais aller avec Quinn Hughes. Je trouve qu'il est absolument fantastique du côté de Vancouver. Écoute, c'est quand même drôle. Par contre, c'est quand même très drôle de voir les deux finalistes au trophée. Calder en 2019-2020 se retrouvait encore comme étant les deux favoris pour remporter le trophée de Norris 4 ans plus tard. En fait, c'est la logique qui a été respectée quand on y pense, c'est parce que les deux étaient considérés comme les futurs défenseurs réalistes dans l'intérieur d'hockey. Puis en ce moment, c'est ça qui arrive pour Quinn Hughes et Cam Makar. Donc moi, je vais aller avec Quinn Hughes, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Makar, ben, moins d'une blessure, les deux peuvent très bien remporter le trophée Norris. Maintenant, allons du côté du trophée Vezina qui est remis au meilleur gardien de but dans l'essai de hockey. Encore une fois, il y a plusieurs noms qui peuvent ressortir dans cette catégorie-là, mais pour toi, Lille, qui est ton favori, en fait?
Tu l'as dit, il y a beaucoup de noms. Écoute, Bobrovsky qui connaît une très bonne saison avec les Panthers, Thatcher Demko, on en a parlé, Hellebuck, on en a parlé, Gorgiev qui est celui qui a le plus de victoires présentement, gardien d'Avalanche, mais niveau du taux d'efficacité, Gorgiev est même pas à 900, là, donc moi je l'excuse tout simplement pour ça. Écoute, Shesterkin, Connor Ingram aussi, Connor Ingram qui est toute une surprise du côté des Coyotes, pardon, Swayman aussi, c'est un autre nom qu'on pourrait nommer. Bref, Je vais m'en tenir à 3, disons. Trois. Bon, Thatcher Demko, on en a parlé, exceptionnel ce qu'il fait. Mais le meilleur pourcentage d'arrêt dans ceux qu'on a nommés, je pense que c'est Connor Hellebuck. C'est un gars qui est excellent depuis des années. Moi, je pense que mon choix irait pour lui. Il aurait peut-être même mérité des années auparavant et qu'il ne l'a pas eu. Là. Donc... Moi, j'irais avec Connor Hellebuck. S'il fait à Winnipeg, c'est incroyable. Son pourcentage d'arrêt est un des meilleurs également. Puis c'est souvent la statistique que je vais me référer en premier. Puis sinon, à part Demko et Hellebuck, il y a Shesterkin qui continue d'être excellent du côté des Rangers de New York, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Mais moi, j'irais avec Connor Hellebuck.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu as mentionné Connor Hellebuck côté Winnipeg qui est absolument exceptionnel. Tu avais même Charlie Lindgren aussi qui a eu un bon début de saison. J'ai un peu moins de matchs que les autres que tu as mentionnés, mais était excellent du côté des Capitals de Washington. Également aussi, il y a Martin Jones aussi qui est relativement surprenant du côté des Maple Leafs. Je pense pas qu'il va tomber finaliste. Sinon, un autre aussi que tu as mentionné Swayman, non?
Ouais, j'ai mentionné Swayman.
Jeremy Swayman aussi du côté des Blues qui est excellent, mais pour moi...
Carter Hart et Samuel Ersson du côté de Philadelphie qui partagent le poste. Tu as parlé de Hart tantôt, mais Samuel Ersson qui sort de nulle part aussi. Là, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là.
C'est également, tu as bien fait de mentionner, qui se retrouve en fait parmi les meilleurs pour la moyenne des BLW et le pourcentage d'arrêt. Donc c'est une autre surprise aussi. Du côté des Flyers de Philadelphie. Mais moi aussi, je pense que... À date, je pense que c'est un no-brainer. Connor Hellebuck...
Tu regardes sa moyenne de but allouée, 2.19, son taux d'efficacité 925. C'est pas mal les meilleurs résultats. Là.
C'est ça, exactement. Tu sais, quand t'es dans le top 3, dans le nombre de victoires, le pourcentage d'arrêt et la moyenne de but allouée, Ça dit tout, en fait.
Exact, ça dit tout.
Fait que non, moi je pense que pour l'instant, c'est quand même le bac. Puis en plus, quand tu regardes le classement des Jets de Winnipeg, je pense que honnêtement, on peut pas aller contre Carl Hallenbach. Donc je pense que ça va être ça. Bon, le dernier trophée que je voulais mentionner, j'en ai parlé un peu plus tôt. Trophée Selke, le trophée Patrice Bergeron.
Ouais.
Au point qu'on est rendu là. Bon, c'est la première année qu'on va vraiment parler du trophée Selke sans que Patrice Bergeron soit le gagnant ou soit parmi les favoris pour remporter le trophée Calder, mais j'en ai parlé un peu plus tôt, mais je vais te laisser quand même en parler en premier. Pour toi, là, qui sont les favoris pour ce trophée-là qui est remis au meilleur joueur défensif dans la salle d'hockey, malgré que ce n'est pas vraiment le meilleur joueur défensif. Là, c'est plus un joueur qui est très bon.
Il est bon offensivement et défensivement.
Et défensivement, c'est ça. Un joueur qui est excellent sur surtout des aspects du jeu.
Exact. Écoute, je sais que tu vas parler de Crosby. Je vais te laisser parler de Crosby, mais en effet, c'est un candidat qui est intéressant. Trois autres noms que je vais mentionner, j'en ai parlé tantôt, mais JT Miller ne fait pas seulement être très bon offensivement. Défensivement, il est extrêmement solide côté des Canucks comme joueur de centre. Donc, lui aussi, il a une importance capitale pour les Canucks qui sont une très bonne équipe. Donc, il est certainement à considérer. Sinon, d'autres noms qu'on connaît plus là, pour ce qui est des Selkies, c'est Mark Stone et Alexander Barkov qui ont deux bonnes saisons offensives également, 46 points les deux. Et même si Mark Stone est un ailier, ça n'empêche pas d'être extrêmement efficace défensivement pour les Golden Knights. Puis Barkov, on le connaît, là, a déjà gagné un trophée Selke. Donc, un autre gros candidat. Puis les Panthers connaissent une excellente saison également, tout comme Barkov des deux côtés de la patinoire. Donc, Barkov, Stone et Miller sont des candidats certainement, mais Crosby, que je vais te laisser en parler aussi.
T'as massé les bons noms. Dans ce cas, JT Miller peut facilement remporter ce trophée Selke, mais pour vrai, faut que j'en mentionne parce que Sidney Crosby est tellement sous-estimé sur son jeu défensif cette saison à plusieurs reprises. Et en ce moment, parmi les meilleurs joueurs au sac des mises au jeu déjà, donc ça en dit gros, et également aussi défensivement, le nombre de jeux qui a fait avorter. Grâce à son jeu défensif, c'est fou là, de voir Sidney Crosby qui est capable d'anticiper des jeux, qui fait des gestes héroïques pour préserver plusieurs avances chez les Penguins de Pittsburgh. C'est exceptionnel de voir Sidney Crosby qui est rendu à 36 ans jouer de la sorte et surtout d'être bon sur tous les aspects du jeu. Là, pour moi, en ce moment, depuis le départ de Patrice Bergeron, est le meilleur joueur, est le joueur le plus complet nécessaire d'hockey, que ce soit autant à l'attaque qu'en défense. Moi, je pense que Sidney Crosby mérite d'avoir ses fleurs pour ce trophée-là. Donc, mériterait de remporter ce trophée-là. Mais écoute, on sait qu'est-ce qui peut arriver aussi avec la saison. Puis, Sidney Crosby aussi a été le visage d'Alexandre Hockey pendant de nombreuses années. Donc, souvent, les gens vont avoir la tendance de parler de Sidney Crosby pour ses prouesses offensives, mais jamais vraiment pour son jeu complet. Là. Donc, je voulais mentionner ça. Mais honnêtement, Mark Stone, JT Miller et Alexander Barkov sont des bons choix. Également, c'est Mitch Marner aussi qu'on oublie de mentionner aussi, qui est très bon aussi défensivement, qui est souvent utilisé par les Leafs en désavantage numérique, pourrait se retrouver parmi les finalistes. Là. Donc, il y a des bons choix pour ce trophée-là. Mais écoute, c'est quand même cool de voir que ça va être plus ouvert. Là. Pendant de nombreuses années, là, il y avait souvent quatre joueurs qui étaient mentionnés. En fait, depuis 10 dernières années, il y a souvent eu quatre joueurs qui étaient mentionnés. C'est Patrice Bergeron que j'ai mentionné plutôt que c'est presque son trophée. T'as eu Barkov aussi, mais sinon, t'as eu Kopitar, t'as eu Jonathan Taves, t'as eu Ryan O'Reilly, t'as eu Sean Couturier aussi qui ont souvent été mentionnés dans cette catégorie-là. Donc, c'est intéressant de voir, à part Barkov, là, de voir les nouveaux visages. Là,
l'année qui avait été nominée, il aurait dû gagner. Pour moi, je ne me rappelle pas qui l'avait gagné cette année-là, mais... Ah, pour moi, il mérite d'avoir au moins un Selke Stone. Ça sera
possiblement
cette année,
Bergeron.
Ouais, possiblement Bergeron. Ouais.
Donc, écoute, Bergeron a 6 trophées Selke. Là, donc,
ouais, c'est incroyable.
C'est fou. Regarde, là, je pense, honnêtement, je m'attends à ce que le trophée Selke se transforme en trophée Patrice Bergeron dans ouais. les 20-30 prochaines années. Là, donc.
C'est un de plus que un ou deux de plus que Gainé, ça, 6.
Je pense que c'est 2 de plus.
Bob Gainé en avait 4 ou 5.
4, je pense, ouais.
Ça se peut bien.
Mais bref, c'est un joueur.
Carbonneau qui en a 3, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, exactement. Des joueurs du Canadien Montréal ouais. qui avaient le record. Ben, en fait, Bob Gainé qui avait le record et Carbonneau, je crois, qui était deuxième pour le plus grand nombre ouais, de trophées de carrière, mais ont été devancés par, malheureusement, un joueur des Bruins, mais un joueur absolument exceptionnel, à Patrice Bergeron, qui risque d'être
un autre Québécois, là.
Ben oui, exactement, un autre Québécois. Ben, malgré que Bob Gainé n'est pas un Québécois, mais...
Non, il n'est pas un Québécois, mais il est un Montréalais.
Un Montréalais, disons-le. Ah, ben j'ai oublié, là, finalement, bon, il restait un trophée qu'on a oublié de mentionner, qui est le trophée Calder. Bon, au départ, ben, le favori jusqu'à sa blessure, c'était Connor Bedard, mais là, avec la blessure de Connor Bedard, est-ce que tu t'attends à ce qu'un autre joueur peut remporter le trophée Calder ou tu penses quand même que Bedard va trouver un moyen de remporter ce trophée?
Ben là, moi, je ne sais pas si Bedard revient bientôt ou est censé revenir, je l'espère. Là, la Ligue nationale, c'est pas mieux quand Connor Bedard est là. Mais oui, c'est lui qui mérite le trophée Calder. Là. J'aime bien tous les autres, là, Brock Faber, Marco Rossi, là, mais c'est Connor Bedard. Ce qu'il a fait cette année avant sa blessure, c'est complètement incroyable. Dans une équipe des Blackhawks qui n'est pas grand-chose présentement, honnêtement. Là, donc, Bedard mérite amplement le trophée Calder, même si la saison se terminait demain. Là, mais en fait, même s'il ne joue pas d'autres matchs cette saison, je pense qu'il serait le candidat favori. Ça en dit long, mais pour moi, c'est Bedard jusqu'à preuve du contraire.
Non, oh, ouais, t'es... C'est parce que moi, la raison pour laquelle je te disais ça, c'est surtout le fait que ben là, Bedard va rater 2 mois d'activité. Ben, en fait, il se possède de rater 2 mois d'activité, mais on sait à quel point Connor Bedard aime le hockey. D'après moi, il risque de revenir plus tôt là, avec une vision complète. Là. Donc, je m'attends à ce que Bedard rate peut-être 1 mois d'activité ou peut-être 1 mois ouais. et demi. Non, mais c'est parce que... Pourquoi j'ai dit ça, c'est que il y avait une histoire qui était sortie du côté de Chicago où Nick Foligno a empêché Connor Bedard d'aller sur la patinoire parce que Connor Bedard voulait revenir au jeu le plus tôt possible et seulement une semaine après sa fracture de la mâchoire, était revenu sur la patinoire pour recommencer à s'entraîner. C'est pour vous dire à quel point ce gars-là est un malade de hockey. Là. Honnêtement, j'ai vraiment vu quelqu'un autant ouais. aimer le hockey que Connor Bedard. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne serais pas surpris de voir Connor Bedard revenir plus tôt que prévu. Là. Normalement, c'est supposé être 2 mois d'absence pour Connor Bedard, mais je suis pas mal persuadé qu'il va revenir plus tôt que ça. Là. Malgré que ce serait pas vraiment utile pour Connor Bedard de revenir plus tôt et d'aggraver sa blessure, là, surtout que les Blackhawks vont nulle part. Les Blackhawks n'ont pas besoin vraiment que Connor Bedard revienne le plus tôt possible. Là, donc, écoute, ça risque d'être intéressant pour la fin de saison avec les Blackhawks de Chicago. Mais je comprends ton point. Normalement, j'aurais voulu te contredire, mais je suis pas mal certain que Bedard va remporter le trophée Calder. Il a quand même eu une première moitié de saison ouais. absolument incroyable, puis c'est malheureux sa blessure.
Mm-hmm. Ouais, il y a aussi j'ai parlé de Faber, Luke Hughes, Rossi, Fantilli, mais je pense que Bedard, surtout s'il revient et qu'il est capable de reprendre le niveau qu'il avait, je pense que c'est à lui ce trophée.
Ouais, je pense, mais écoute, honnêtement, Bedard est tellement exceptionnel que ce serait vraiment difficile de ne pas revoir Bedard avoir un niveau... élite dans une salle d'hockey, ça serait vraiment, vraiment une surprise. Donc, voilà, c'est ça qui complète, en fait,
cette histoire.
Oui?
Ouais, je voulais juste te poser une dernière question.
Mm-hmm.
En fait, Art Ross, est-ce que McDavid va réussir à rattraper son retard sur Kucherov et MacKinnon pour toi? Là, il est à 59 points présentement, McDavid. Qui remporte le Art Ross? Kucherov, MacKinnon, McDavid?
Oh, là, ça, c'est une excellente question. Honnêtement, Honnêtement, je pense que Nathan MacKinnon, à moins d'une blessure, va terminer premier pointeur incident de hockey. Je l'espère, ce serait le fun de voir Nathan MacKinnon qui n'a jamais remporté un trophée Hart-Trophy dans sa carrière. L'année passée, c'était sa première saison de 100 points, si je ne me trompe pas, en incident de hockey à 27 ans. Donc, non, je serais vraiment content de voir Nathan MacKinnon terminer premier. Surtout que Kucherov a déjà remporté un Trust et McDavid, on sait, il en a remporté plusieurs depuis son entrée en incident de hockey. Donc, non, moi, je pense à Nathan MacKinnon. À moins d'une blessure, je m'entends sur que Nathan MacKinnon termine meilleur porteur d'excellence de hockey. Puis quand même, en ce moment, MacKinnon et Kucherov ont quand même une bonne avance là, sur McDavid. Là. Franchement,
ouais, une bonne avance. Ouais.
T'es une bonne avance.
C'est 14 points qui séparent MacKinnon et McDavid, puis c'est 16.
Mais le problème, c'est qu'on connaît quand même McDavid. Dès qu'il se retrouve dans une bonne séquence, c'est facile pour lui d'accumuler des points. Là, donc, honnêtement, je serais zéro surpris si Nathan MacKinnon termine meilleur pointeur dans l'excellent d'hockey. Mais pour le bien d'excellent d'hockey, c'est peut-être mieux que Nathan MacKinnon ou Kucherov termine en avant de Connor McDavid au sommet des pointeurs d'excellent d'hockey. Écoute, McDavid peut terminer meilleur pointeur d'excellent d'hockey l'année prochaine puis dans les 2-3 prochaines années, mais là, en ce moment, écoute, le dernier joueur à avoir remporté le trophée Hart-Trophy autre que McDavid, c'était son coéquipier Leander Zaitl en 2019-2020, mais le dernier joueur des Oilers d'Edmonton à avoir remporté ce trophée-là, le dernier joueur qui ne jouait pas pour les Oilers d'Edmonton, c'était Kucherov en 2018-2019, et ça fait 5 ans, donc il serait intéressant d'avoir un autre meilleur pointeur à l'incident d'hockey. Là, donc, mais pour répondre à ta question, Nathan MacKinnon, ça va être mon choix. Mais je me trompe souvent.
C'est un bon choix.
Okay, je l'espère à toi.
J'irais McDavid, je trouve qu'il est moins la machine à points qu'il était l'an dernier, même dans cette séquence de victoire des Oilers là, qui est présentement là, n'a pas tant de points que ça. T'sais, il fait des points à presque chaque match, mais c'est pas des 4-5 points par match comme on pouvait voir les autres années. Donc je pense pas qu'il va remonter la pente. Je pense qu'il aurait déjà recommencé à la montée, mais en fait, il reste une moitié de saison. Il pourrait très bien le faire, mais je vais y aller comme toi. Je vais aller Nathan MacKinnon, puis je l'espère parce que ce serait le fun, comme tu l'as dit, de la variété pour le Hart-Trophy.
Ouais, non, mais c'est pas que je me trompe, parce que depuis quelques temps, j'ai de la difficulté avec mes prédictions dans le monde du sport. Donc, vraiment, ça se peut que McDavid.
Moi aussi, t'inquiète pas.
Que McDavid termine le premier meilleur pointeur. Ou peut-être que ce soit un autre joueur que Kucherov, McDavid et MacKinnon, que ce soit un Pasternak ou un JT Miller, qui sait, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Ça me surprendrait.
Ça me surprendrait aussi, mais écoute, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là. Bon, c'est ça qui complète ce long épisode de retour. J'ai failli dire de retour à force, mais de sur-réception, podcast 100% hockey du Club École. Monsieur Presse Groslot, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi. Ça a été extrêmement le fun, comme à l'habitude. J'étais là.
Merci.
Écoute, il y a un délai, mais il n'y a pas de problème.
Il y a un gros délai.
Mais il n'y a pas de stress. Écoute, plaisir de partager. Puis, au nom de tout, au nom du Club École, je suis Doyle Ibrahim. Et on se revoit bientôt, je l'espère, pour un prochain épisode de ce réception. On va essayer d'en faire plus souvent pour l'année 2024. Là, on travaille là-dessus. Okay? Fait qu'on se revoit bientôt, je l'espère, pour un autre épisode de ce réception. Salut tout le monde.
Le tir est la vue!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.